Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International, votre émission sur RFI, comme chaque jour, pour vous parler de football. Deux, trois, et les Fenech ont battu les Cafeteros de Colombie 3-0 hier soir. Un score qui concluait une belle fête à Lille. Fête dans les rues avec près de 40 000 supporters venus encourager les champions d'Afrique d'un peu partout en Europe. Et fête aussi, bien sûr, sur le terrain avec des Algériens des grands soirs. Décidément, les Africains ont eu de belles prestations face aux Latino-Américains cette semaine. Les Panthères gabonaises en grande forme. Les Panthères ont rebondi après des mois difficiles en gagnant leurs deux matchs à l'extérieur. À Ouagadougou d'abord, à Tanger hier soir. Quel est le secret de leur nouveau sélectionneur Patrice Neveu? L'Espagne, sixième pays européen qualifié pour le prochain Euro. Une Roja avec des jeunes pousses et de nouvelles couleurs. Et puis un crochet que nous ferons par le Qatar, le pays qui accueillera la Coupe du Monde 2022 et promet des températures clémentes. Notre invité surprise du jour est allé vérifier sur place. En attendant, je vous présente les invités et notamment une revenante dans Radio Foot International, n'est-ce pas Karine Galli? Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous nous aviez oublié.
Très content, non. Je ne vous ai jamais oublié et David peut en témoigner. Malheureusement, l'horaire n'était pas le plus simple pour moi, mais je suis très très contente de vous retrouver.
Bon, merci en tout cas de revenir dans Radio Foot International, hein, chers auditeurs. C'est la première fois depuis le début de saison, c'est pour ça qu'on la salue de cette manière, Karine Galli. Mais on la voit un peu partout sur les terrains, donc elle n'a pas lâché le football. Philippe Doucet est là aussi. Bonjour Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Vous avez lâché le football pour quelques semaines.
Moi j'ai arrêté tout pour RFI, c'est l'inverse.
Ah,
j'ai
c'est
tout
bien.
Arrêté.
Non mais on vous aperçoit parce que c'est des gens de télévision aussi qui sont dans notre studio aujourd'hui, Canal Plus et puis l'équipe TV. Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour à vous Annie et puis bonjour à tout le monde, tous les auditeurs. Hein? Je suis vraiment content de voir Karine que je vois
pas souvent. Je croyais que vous la croisiez de temps en temps à la
un
télé.
Un petit peu, ouais. Du côté de la chaîne l'équipe.
Alors Tom Rossi avec nous. Bonjour Tom.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous arrivez de Lille, hein, des Hauts-de-France comme on dit désormais aujourd'hui. Eh bien dans l'Hexagone, nous voilà avec quelqu'un qui arrive des Hauts-de-France et on va vous dire pourquoi. Radio Foot, c'est parti.
La mauvaise relance. Et le ballon pour Kounedja. La première frappe algérienne sur les mouches. Kounedja. Quel but. Mahrez, c'est deux buts. Kounedja, il y a quelques minutes. Riyad Mahrez maintenant. L'Algérie fait le break. Riyad Mahrez encore, toujours, Mahrez, il est dans cette position pour envelopper le ballon. Doublé pour Mahrez, l'Algérie mène 3-0, moins de Choudhry.
La fête au stade de Lille, qui avait sans doute peu vécu de telle passion dans ses tribunes pour un match de football. Les supporters de l'équipe d'Algérie s'étaient donc donné le mot et se sont retrouvés dans les rues de la capitale du nord de la France. Passion verte dans les rues comme eh bien, pendant et après la rencontre. Tom Rossi, vous étiez donc l'envoyé spécial à Lille, avec d'ailleurs Farida Chache, notre collègue du service internet, qui a écrit un super article que vous pouvez lire sur le site africfoot.fr. En tout cas, racontez-nous cette fête, parce que les forces de l'ordre ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Elles redoutaient, selon les mots de la préfecture de police, l'exubérance des supporters.
Et au final, tout s'est bien passé. Moi, mes tympans siffle encore un petit peu. C'était une très belle fête qui avait commencé dès l'après-midi dans le centre-ville de Lille, devant la gare Lille-Flandre. Déjà des centaines de supporters algériens vers 15-16 heures, heure française, alors que le match était à 21 heures, heure française. Des chants par-dessus, des chants, beaucoup de chants, beaucoup de couleurs.
Ils arrivaient d'un peu de toute l'Europe, parce que ils venaient pas que de Paris.
Il y en avait beaucoup qui venaient du sud de la France, de Marseille. J'en ai croisé un qui a pris le bus pendant 14 heures. Il venait de Grenoble, un autre de Londres, d'autres aussi qui venaient de Belgique. Lille, en fait, c'était très bien placé pour cette partie de l'Europe, avec Londres pas loin, Bruxelles aussi. Donc, une belle fête. Ça a continué dans le métro aussi, Deschamps, les Lillois étaient un peu abasourdis, ils s'y attendaient pas du tout à avoir autant d'Algériens. Et puis après, devant le stade jusqu'au coup d'envoi du match, c'était très bruyant, avec notamment, ça c'est à signaler, tous les buts de la CAN marqués par l'Algérie, mis sur l'écran géant. C'est un peu chauffé à blanc tous les supporters qui étaient déjà très 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 bouillant, et un message de Belmadi, Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, pour dire la bienvenue aux supporters. C'était sur l'écran géant, mais aussi un appel au calme. Tout s'est bien passé, quelques tout petits accros malgré tout, l'hymne colombien sifflé puis applaudi pour recouvrir ces sifflets de personnes qui en fin de match sont entrées sur la pelouse, mais ont très vite été repris par les stadiers. Et aussi à chaque but marqué, donc trois buts algériens, des bombes agricoles, c'est des sortes de très gros pétards qui ont résonné, avec notamment le speaker du stade qui à deux reprises a demandé d'arrêter ce genre de comportement, et qui a même dit attention, si un troisième pétard devait être entonné, évidemment la partie pourrait être arrêtée. Et au final, elle ne s'est pas arrêtée, ça a été jusqu'au bout, la fête était belle.
Alors qu'il y a eu un troisième but.
Et il y a eu un troisième but, non, c'était une très belle fête.
En tout cas, Farid Achache conclut cet article en disant c'était un peu comme si les Fennecs, la plupart formés en France, voire nés en France, je rajouterais, étaient venus fêter leur titre de champion d'Afrique dans l'Hexagone. Le match, justement, a donc vu les champions d'Afrique très motivés, il l'avait dit d'ailleurs avant le match, confirmer leur statut, gagné, on s'en souvient, en juillet dernier en Égypte. Et Djamel Belmadi, le sélectionneur, donc, ne s'attendait pas à un autre match que celui qu'il a vu de la part de ses joueurs.
J'ai pas été impressionné. Je les connais, mes joueurs. Ils sont capables de battre pas mal d'équipes nationales, pas mal de nations fortes. On l'a prouvé dernièrement avec cette Coupe d'Afrique, où il y a des équipes comme le Sénégal, équipes comme le Nigeria, ces deux équipes viennent de faire match nul avec le Brésil. Donc non, je suis pas impressionné. Je sais à qui j'ai affaire.
Il avait plus de voix à la fin du match, votre sélectionneur, votre micro.
Il a beaucoup crié, célébré aussi comme tous les Algériens. Et juste, je voulais rajouter quelque chose, c'est que un journaliste de France Bleu Nord, donc nos confrères de la radio locale, qui était juste à côté de moi pendant le match, lui, il suit Lille qui joue dans ce stade, et il n'a jamais vu une ambiance pareille.
Bah oui, c'est ce qu'on pouvait. Et d'ailleurs, tous les billets, les 40 000 billets avaient été vendus en 48 heures.
En moins de 48 heures,
incroyable. Journée. En tout cas, Djamel Belmadi, au départ, il avait choisi un peu, je sais pas si c'est la prudence, il avait aligné le 11 titulaire de la CAN.
C'est ça, on a retrouvé
la finale.
Sauf Attal qui était blessé pendant la finale, c'était carrément c'était le 11 type, hein, de la CAN. C'était l'occasion de fêter les champions, finalement, puisque le dernier match amical jeudi dernier face au Congo, Djamel Belmadi avait fait un peu tourner. Là, tous les champions étaient là, Ben Sebaini, Feghouli, Benasser, évidemment Mahrez, hein, qui a marqué deux buts. Belali était là aussi. Donc ces joueurs là, ces champions ont pu être fêtés dignement.
Hervé Penaud, vous vous êtes régalé ?
Ah, je me suis régalé, absolument. Alors, tout n'a pas été parfait, hein. Il y a eu même des petites approximations techniques en deuxième période, notamment de joueurs qui, d'habitude, sont très justes, hein. Je pense à Feghouli, notamment. Mais vraiment, état d'esprit remarquable, volonté de s'imposer. Et puis, je trouve que c'était important pour le champion d'Afrique en titre de remporter ce match de cette manière-là. Parce que c'est aussi un message envoyé au reste du monde, hein, pour dire, alors, Belmadi parlait des deux matchs nuls du Brésil contre des équipes africaines, évidemment.
Et même avait fait là, un match le fait nul que le champion d'Afrique.
Voilà. Écrase 3-0. En plus, il y a une frappe sur la transversale. Écrase une équipe de Colombie qui restait quand même sur une série assez impressionnante, hein, puisqu'il devait être sur 9 matchs sans défaite. Je trouve que c'est vraiment, franchement, c'est prouvé simplement que le foot africain peut aller à un certain niveau. Et ça, c'était important pour Belmadi de montrer que cette équipe, c'était pas simplement une équipe qui était faite pour l'Afrique, mais c'est une équipe qui peut grandir ailleurs.
Philippe, peut-être un petit bémol, c'est que c'était pas la grande équipe de Colombie non plus. C'était pas celle qu'on a vue à la Copa América, et il manquait quand même trois grands joueurs.
Oui.
Bon, il manquait James.
De toute façon, honnêtement, la Colombie, même si elle avait des résultats derniers relativement corrects, on sait que depuis trois ans, c'est une équipe qui est devenue moyenne, ce qui est pas, c'est pas une équipe extraordinaire, mais je trouve que c'est pas le débat. Je dirais exactement la même chose qu'Hervé. D'abord, il faut pas minimiser, quand bien même la Colombie serait pas si géniale que ça, et que le Sénégal aurait dû faire mieux contre la Colombie à la Coupe du Monde, ils auraient jamais dû perdre ce match. Bon, voilà, c'est les aléas. Mais, ce qui est très important, je dépasserai même ce que vient de dire Hervé,
c'est impossible.
Un petit peu quand même, un petit peu sur le plan réglementaire, c'est-à-dire qu'on est dans une période où, en fait, pour que l'Afrique aient droit de jouer des grandes équipes, il va falloir qu'ils fassent des performances de ce genre-là pour qu'ils accèdent à peut-être une ligue mondiale, une ligue des nations mondiales demain, des choses comme ça, parce que sinon déjà ils peuvent plus jouer des matchs contre les Européens qui sont occupés par la ligue des nations, les qualifications, etc., etc. Donc c'était quelque part presque vital que l'Afrique se distingue dans ses matchs amicaux. Bah, c'est pas le résultat brut, mais en tout cas se distingue, montre qu'elle est au niveau de ces pays d'Amérique du Sud, parce que je pense que demain l'avenir pour eux, c'est d'essayer de raccrocher une espèce de Ligue des Nations mondiales, parce que sinon l'Afrique va jouer uniquement entre elles et des matchs amicaux en banlieue parisienne devant 1000 spectateurs. L'enjeu, il était là quand même.
Karine Galli, question d'une auditrice sur notre page Facebook. Alors, c'est rare, en plus on a trouvé une auditrice qui nous laissait un message pour nous dire, c'est Naomi Mukena Ngongo qui nous dit Sénégal contre Brésil, un but partout, Sénégal-Brésil, Nigeria-Brésil, un but partout, et Algérie-Colombie 3-0. Pensez-vous que l'Afrique connaît des performances significatives ?
Bah, de toute façon, il y a des joueurs africains exceptionnels dans les plus grandes équipes actuellement. Et donc évidemment qu'il y a des vrais résultats et que c'est pas des résultats en trompe-l'œil. Et par rapport à ce qui était dit sur l'Algérie, moi, ce que je trouve qui est important aussi, c'est que très souvent, quand on parle des joueurs africains, c'est des joueurs offensifs. Globalement, c'est très souvent des joueurs offensifs. Et là, l'une des forces aussi de l'Algérie, c'est que c'est une équipe qui prend quand même très peu de buts. C'est une équipe qui est très bien construite et c'est une équipe qui est solide. Et on le sait très bien que pour aller dans les grandes compétitions loin, il faut une équipe qui est solide avec une assise et qu'après, il faut des grands buteurs, mais il faut quelque chose de solide et de bien construit. Et Belmadi l'a fait. Et l'Algérie, c'est évidemment des offensives, des Mahrez et des Slimani Anko, mais c'est une équipe qui prend très peu de buts, qui a une défense qui est très solide. Et je pense que rien qu'avec ça déjà, tu iras forcément plus loin dans les compétitions à venir et peut-être à la Coupe du Monde comme ils avaient pu le faire au Brésil en 2014.
Hervé, il y a le sélectionneur de la Colombie, Carlos Queiroz, parlait d'une équipe d'Algérie mature. Est-ce que vous diriez ça aussi ?
Oui, absolument.
Parce qu'on l'a vu grandir pendant la CAN, hein, cette équipe, tout de suite impressionnée, mais grandir pendant la CAN. Est-ce que pour vous, elle est à son meilleur moment ?
Alors, ce qui est drôle, il faut faire juste un petit rappel qui fait sourire aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, quand Belmadi prend l'équipe nationale, tout le monde dit mais quel scandale ! Pourquoi ce Belmadi alors qu'il y a Carlos Queiroz ? Parce qu'il était aussi en compétition, Carlos Queiroz à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens disent la même chose, mais c'est vrai qu'on voit cette équipe grandir. Il y a une maturité nouvelles, des vrais choix, et puis là on est sur le prolongement de la CAN, des vrais choix de Belmadi, descendre Feghouli, de donner alors à des joueurs nés en Algérie la possibilité de s'exprimer, qui ne jouent pas en Algérie, attention, hein, mais qui sont nés en Algérie, mais il y en a quand même 4 ou 5 dans l'équipe, Bounedja, Belaïli, Ben Sebaïni, Attal, Ben Lamri, donc il y a quand même pas mal de joueurs qui sont algériens, d'autres binationaux, enfin quand je dis sont algériens, ils sont tous algériens, mais enfin qui ont été éduqués au football en Algérie, d'autres en Europe évidemment, et lui a réussi à trouver un état d'esprit, ce fil conducteur qui manquait à cette équipe d'Algérie, qui a toujours manqué à cette équipe d'Algérie. C'est pour ça que le grand vainqueur de cette CAN, on l'a souvent souligné, c'est Belmadi d'abord, mais ça n'empêche pas, il faut expliquer aussi aux gens que les joueurs algériens, il y a des joueurs qui sont sortis de, je dirais quasiment nulle part, mais un joueur comme Guédouria, qui est l'un des plus importants dans cette équipe, parce que c'est celui qui est devant la défense, qui gère un peu l'équilibre de cette équipe, mais lui à un moment il était carbonisé. Et c'est Belmadi qui s'est imposé, qui l'a imposé. Et là, c'est très fort de sa part, surtout qu'il y a quand même eu des conférences de presse qui étaient un peu sévères, hein, entre Belmadi et quelques consultants.
Ils ont l'habitude en Algérie.
Et on sait comment ça se passe là-bas. Donc, vraiment, c'est pour ça, moi, je répète, je trouve que ça, c'était pas simplement un match amical à mes yeux, hein, ce match-là. C'était quand même le retour de l'Algérie en France avec 40 000 spectateurs, avec une exposition médiatique très, très importante.
Et pas d'incident.
Et aucun incident, ça, c'est à noter, et dans une ambiance incroyable. Donc, franchement, tout a été réussi.
Et la confirmation que c'est une vraie équipe. Ouais, l'Algérie, absolument. C'est une vraie équipe, ce qui est devenu extrêmement rare dans les sélections nationales, y compris en Europe, en Amérique du Sud et autres. On a des conglomérats de stars, on a des équipes plus ou moins bonnes, etc., selon les compétitions. Mais des vraies équipes, on en voit très très peu. Et en Afrique particulièrement, très objectivement, au niveau collectif, c'est rarement très satisfaisant. Et l'Algérie, franchement, depuis la CAN, est très très impressionnante sur ce plan-là.
Une vraie équipe qui n'a plus perdu depuis un an, jour pour jour. Ça fait 16 matchs de suite sans défaite. Record battu. Cette génération 2019 a battu un vieux record qui datait de la génération 90. 16 matchs sans défaite, c'est du jamais vu pour les Fennecs.
Mais sachant qu'il y a une CAN au milieu. Bah, en plus.
Donc il y a quand même quelques matchs importants.
Un détail.
Non, exactement. Mais franchement, le choix de Belmadi, on a envie de voir ce qu'il va donner même à l'avenir. Moi, j'attends, j'espère voir dans les qualifications Coupe du Monde le même type d'Algérie. Voilà. Alors attention, parce que les éliminatoires.
Il s'est un peu mis ça.
C'est très compliqué. Et d'ailleurs, juste pour prolonger un petit peu ce que disait Philippe tout à l'heure, le problème aussi, c'est qu'en Afrique, vous avez des qualifications sur tout. Alors ça fait que les plages où vous pouvez jouer contre des adversaires européens ou asiatiques ou sud-américains, elles sont pas si nombreuses que ça. Qualification CAN, CAN plus Coupe du Monde, etc.
Ah bah là, on a commencé deux qualifs qui vont être parallèles. On a commencé déjà la Coupe du Monde, il y a la CAN qui commence. Tout va être croisé, mélangé, on saura plus qui joue quoi.
C'est comme ça. On peut se retrouver comme le Sénégal qui décide, et ce que j'ai trouvé pas si bête que ça, franchement, en septembre, de pas prendre de match amical. Pour justement permettre aux joueurs de souffler après la CAN, de se dire bon attendez, restez entre vous, là vous allez voir une ou deux semaines tranquilles.
Alors évidemment, le président de la fédération algérienne que vous avez rencontré, Tom Kheredine Zetchi, eh bien, était très content de ce match hier soir et il serait prêt à renouveler l'expérience.
Je pense qu'à chaque fois qu'on pourra organiser un match amical lors des dates FIFA, on pensera à jouer, pourquoi pas en Europe. Il y a une grande communauté algérienne et maghrébine dans toute l'Europe et ceci permettra aussi à nos compatriotes qui sont partout en Europe de venir soutenir leur équipe nationale. Il y aura très certainement dans un futur, on va dire proche, un France-Algérie. Maintenant, on a très bien discuté avec le président Le Graët. On va continuer à discuter pour convenir d'un prochain match en Algérie dans l'année ou l'année et demie qui suivra.
Philippe, Doucet, c'est l'heure d'un France-Algérie, 18 ans après, c'est ça,
ça 2001.
C'était 2001.
C'est 2001, ouais.
18 ans après, est-ce que ça peut avoir sonné, voire, alors on parle plutôt dans les instances dirigeantes du football algérien et français, eh bien d'un Algérie-France qui se déroulerait donc en territoire algérien.
Bah, symboliquement, ce serait très fort, parce que la France, l'équipe de France va quand même très très rarement en Afrique. Elle s'est déplacée très rarement là-bas, alors qu'il y a évidemment un lien historique assez fort. Il y a un ressentiment très fort qui avait éclaté lors du France-Algérie de 2001. Moi, je trouve que s'il faut en refaire un, c'est plutôt à Alger qu'il faut le faire. Pour que le symbole soit vraiment fort, c'est à Alger qu'il faut le faire et ne pas risquer de se retrouver dans une espèce de guerre des banlieues au Stade de France qui n'a pas grand intérêt.
Ouais. D'autant plus que moi, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Alors, je suis peut-être d'un optimisme, mais aucun. C'est-à-dire qu'en Algérie, les gens sont prêts à venir supporter l'équipe d'Algérie et même voir l'équipe de France. Et d'ailleurs, c'est pas anodin.
Champion d'Afrique, ça serait pas mal.
Oui, absolument. Et il y a eu des sifflets là, lors de l'hymne colombien, mais tout de suite après, au bout de 30 secondes, les gens ont voulu montrer, non, allez, on arrête ça, on va applaudir l'hymne colombien. C'est aussi un message qui a été envoyé de la part des tribunes. Honnêtement, moi, je pense que ce serait une super idée en Algérie. C'est un geste fort, symbolique, politiquement aussi, parce qu'il ne faut pas se cacher. Ça veut dire simplement qu'un match de foot. Moi, je rêve d'un match Algérie-France, et je suis persuadé qu'il n'y aura aucun souci. Mais en Algérie, ils attendent les deux équipes, voir un match de football, ils ne se posent aucune question. Il y aurait plus de difficultés, il y a un petit peu plus de difficultés, même si je pense qu'aujourd'hui ça serait plus gérable, mais il y aura un petit peu plus de difficultés à le gérer peut-être à Paris qu'à Alger.
On avait demandé récemment l'avis de Lilian Thuram, un des acteurs du match de 2001, qui avait laissé malheureusement un triste souvenir sur la pelouse donc du Stade de France. Et Lilian Thuram pense aussi que c'est l'heure d'organiser un tel match.
Ce serait quelque chose d'important parce qu'encore une fois, je pense que dans l'inconscient collectif, il y a toujours une charge émotionnelle lorsque on parle de France-Algérie ou d'Algérie-France, pour beaucoup de gens, parce que c'est lié à l'histoire. Et donc si le foot peut emmener à une réflexion plus intelligente, c'est quelque chose qu'il faut saisir. Les Algériens seraient très très heureux de recevoir l'équipe de France, donc j'espère que ça va pouvoir être possible.
Voilà, Lilian Thuram, on s'en souvient, qui avait pris part donc à cette rencontre. Tom, lui, Belmadi, qui né en France, formé en France, lui, il aimerait jouer ailleurs.
En fait, au-delà de jouer contre l'équipe de France, son idée à lui, c'est de jouer régulièrement en France et en Europe pour la communauté algérienne. Hier, la ville qu'il a citée en premier, c'était Marseille, évidemment. Ensuite, il a cité Nice et évidemment Paris. Pourquoi pas dans le futur des matchs amicaux contre des grandes nations, des grandes nations mondiales, en France encore ou en Belgique ou en Angleterre.
Est-ce que c'est un changement de voir ces équipes africaines, parce que souvent on les voit effectivement se rencontrer entre elles ou rencontrer des petites nations européennes? parfois quand les grandes ont le temps. Mais est-ce que on voit quelque chose de nouveau, Karine, malgré les résultats des fois un peu décevants de ces équipes africaines en Coupe du Monde?
Mais après, ça dépend aussi, parce que les seules équipes africaines aujourd'hui qu'on peut imaginer affronter des grandes d'Europe, c'est là où il y a des très grands joueurs. Il faut pas se mentir. Aujourd'hui,
on a vu le Sénégal, le Nigeria, voilà, les trois équipes qui étaient sur le podium de la dernière CAN.
Le Sénégal, ça intéresse. Pourquoi? Ça intéresse parce qu'il y aura évidemment l'équipe européenne ou l'équipe sud-américaine, mais parce qu'il y a des stars au Sénégal et des stars mondiales. Mmh. À partir du moment où tu as des stars mondiales dans des équipes africaines, là, ça intéresse tout le monde. C'est juste une question d'intérêt et toujours pareil.
De droit télé.
Et tout oui, ça, et puis d'aspect financier, parce que comme le disait Hervé, l'objectif, c'est de remplir les stades. Donc, si tu fais un Sénégal-France à Pierre Mauroy, évidemment que ça sera plein aussi. C'est logique. T'as dans les 5 meilleurs africains, dans les 5 meilleurs joueurs du monde, aujourd'hui t'en as quasiment 3 qui sont africains, donc oui.
Bon, et ben voilà, on aura donc peut-être
et
d'autres.
Et puis comme ça, on sortira un peu du cadre des matchs à Saint-Leu-la-Forêt devant 500 personnes ou qui ont pas grand intérêt. Alors, ça a toujours de l'intérêt pour des sélectionneurs parce qu'ils ont besoin de connaître leurs joues.
Évidemment.
Et parfois les joueurs,
c'est pas une fête du sport.
Non, et puis ça les intéresse pas toujours. Donc
viennent même pas d'ailleurs.
Il va falloir quand même tirer vers ce type de match. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir de voir des gros matchs avec des sélections africaines durant la trêve. Mais il faut pas oublier le Gabon aussi, qui a joué le Chili, la Guinée.
Ouais, c'est le prochain sujet, Hervé.
Je voulais faire une passe décisive.
Voilà. Et ben, elle est faite. Et avant, on dit merci beaucoup à Tom Rossi.
Tom.
Qui est allé à Lille hier et qui est venu nous raconter ça. D'autres camarades, parce que Nabil Djellit et Patrick Juillard, je sais pas si vous les avez croisés.
Non, je les ai pas croisés.
Nabil, je l'ai croisé, mais à la rédac. Et il était fatigué parce qu'il avait passé une très bonne soirée.
Ah, ça, j'imagine.
Il a beaucoup apprécié le spectacle qu'il a vu.
On s'est bien régalé.
Et le seul truc, il a pas vu Slimani, il était un peu ennuyé. Enfin, sur la fin.
On continue, merci Tom.
نور الدين مرابط المحارب منتخب الوطني شوف اللي عاد الحارس في جهه حذاري الكابون تسجل هدف ثالث في هذه اللحظات الكابون تستفيد مرة أخرى من خطأ دفاعي قام به المدرب وحيد خليل لوزيتش.
Les Panthères ressortiraient-elles leurs griffes après leur victoire sur les étalons? Les joueurs du Gabon ont remporté hier leur match sur les Lions de l'Atlas, victoire 3-2. Match très disputé donc dans le stade de Tanger et une deuxième victoire à l'extérieur du 2-2 pour le nouveau sélectionneur Patrice Neveu, très heureux de la réponse que lui donne son équipe gabonaise.
Pour nous, c'est surtout une belle satisfaction de remporter une victoire au Maroc dans la mesure où j'ai repris l'équipe qui elle était en manque de confiance, des joueurs qui doutaient beaucoup. Je pense que ça va nous permettre, je dirais, d'avancer et de pouvoir continuer à travailler pour préparer les échéances officielles à venir.
Préparer les échéances à venir, c'est vrai que Philippe Doucet, elle revient un peu de loin, cette équipe, de mois de doute, cette CAN à domicile où l'équipe sort un peu tôt, ensuite qui ne participe pas à la dernière CAN en Égypte, et puis on se souvient que Pierre-Emerick Aubameyang avait certains états d'âme, pas le seul d'ailleurs, ceux qui jouent dans les grands clubs européens et qui se demandaient un peu ce qu'ils faisaient dans la sélection. Est-ce que Patrice Neveu a une baguette magique ?
Il n'a pas une baguette magique, mais il arrive sûrement au bon moment pour rassembler un peu tout le monde et c'était un peu le Club Med, quoi. C'était devenu le Club Med, cette sélection, avec des joueurs qui venaient quand ils voulaient, quand ils avaient envie, avec une motivation qui visiblement n'était pas le point d'orgue.
Aussi défaillante, on se souvient, des joueurs mis à contribution pour transporter les leurs.
Tout partait à volo dans cette sélection. Donc Patrice Neveu, il est arrivé à un moment où il a pu aller voir tout le monde, rassembler, aller voir Pierre-Emerick Aubameyang, son père, discuter. D'ailleurs, son père, Pierre, va intégrer... normalement, enfin, si les contrats signent comme manager, comme team manager de l'équipe, ça contribue à rassembler un petit peu tout le monde parce que c'est un pays qui aime beaucoup se diviser alors que quand on est le Gabon, qu'on a une population quand même relativement limitée et un réservoir de joueurs qui est quand même pas exceptionnel, mais il se trouve qu'on a quelques joueurs, notamment un exceptionnel, et ben, il faut vraiment rassembler au maximum pour arriver à quelque chose. Patrice Neveu a réussi cette performance, bravo à lui.
Hervé.
Oui, et puis ce qui est important, c'est pour Pierre-Emerick Aubameyang d'être enfin le Aubameyang qu'on attend. Lui-même l'a dit, hein, il l'a déclaré, il a dit en gros, j'ai pas assez donné pour cette équipe nationale. Alors, lié effectivement à des problèmes qu'on connaît en interne, mais lié aussi à lui, lié à ses performances sur le terrain, parce qu'on sait qu'il a pas donné, il a pas été non plus le Aubameyang qu'on pouvait espérer. Alors, c'est vrai qu'il est pas entouré par la même qualité de joueur qu'il peut avoir Arsenal ou Dortmund, mais il n'empêche que moi je l'ai vu rater des matchs ou des occasions qu'il ne rate pas quand il est en club. Donc lui aussi doit tirer l'équipe vers le haut et ça doit devenir le vrai leader, c'est celui qui va booster cette équipe. Alors, ça sous-entend qu'enfin l'état d'esprit revienne.
On a l'impression que Patrice Neveu, il a ramené ça en tout cas.
On verra sur la suite parce que bon, là, Lemina
était
pas là.
Il a une longue expérience de l'Afrique et,
c'est vrai.
Et des sélections.
Lemina était pas là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a ramené quand même pas mal de monde. Ndong a joué. Vous aviez Aubameyang.
Bouanga qui a marqué.
Bouanga est là. Alors Bouanga, il a jamais posé de problème. Lui, à la rigueur, c'est pas un souci. Mais c'était d'autres rivalités internes qui avaient suscité des jalousies, des petits énervements.
Il y a un nouveau talent aussi, Lemina,
qui est intéressant. Qui est intéressant. Donc ça veut dire qu'on a toujours pensé que c'était une équipe qui avait du potentiel individuel. Mais simplement qu'il n'avait jamais réussi à redonner quelque chose collectivement.
Alors, le gardien de but, c'est en dehors du terrain, pratiquement.
Oui, bien sûr. Donc, c'est une interrogation sur le gardien de but. Ils sont dans un groupe qui n'est pas facile, attention, pour la qualification en
Cannes. C'est vrai.
Donc, va falloir
qu'ils jouent. Dès le premier match, ils jouent.
Ils
jouent à la RDC, je crois.
RDC,
je crois qu'ils jouent à
Angola,
Kinshasa le premier match.
Angola, RDC, Gambie. Donc, c'est une équipe. Mais ça va être intéressant de voir ce qu'est capable de faire Neveu. Mais d'abord, état d'esprit, arriver à redonner une unité à ce groupe-là. Mais j'ai bien aimé la réaction d'Aubameyang qui a aussi accepté les critiques qu'il pouvait avoir reçues, parce qu'à un moment c'était plus compliqué pour lui de le dire, mais là le fait même d'avoir dit c'est vrai que j'ai peut-être pas assez donné à cette équipe, et ben moi je trouve que voilà, mettons on repart, mais que tout le monde tire dans le même sens, et la star c'est Aubameyang, faut pas l'oublier, faut pas que les autres imaginent qu'il soit supérieur à lui.
Exactement. Donc du 2 sur 2 pour Patrice Neveu. Par contre, pour les Lions de l'Atlas, la transition entre Hervé Renard et Vahid Halilhodžić est un peu plus compliquée. Avant cette défaite, les Marocains avaient fait match nul contre les Libyens, mais leur nouveau sélectionneur coach Vahid n'est pas inquiet.
J'ai vu le garçon qui s'est battu comme Coupe du Monde. Et ben je l'ai félicité. Pour ça, je dis, il faut que vous êtes un petit peu patient. Il faut que je sois pas patient. Je connais ces périodes, je connais ça. Je suis déçu pour certains garçons qui sont très abattus. Après, je dois encourager comme ça. Et après, sur 4 matchs, j'ai utilisé, je pense, 32 joueurs. Mais je vous dis, je préparais toujours l'équipe pour gagner, c'est pas pour perdre. On est parti très bas, reconstruction.
Ils sont partis très bas, ils sont en reconstruction. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'il y avait Hervé Renard quand même avant, on les a vus à la Coupe du Monde, on les a vus.
On va dire que c'est une manière de faire et de dire de la part de coach Vahid, hein, qu'on aime bien ici évidemment. Mais enfin, c'est une équipe qui a fait la Coupe du Monde, qui aurait pu passer le premier tour sans un arbitrage désastreux, ça faut jamais l'oublier. Mmh. Je pense que là, ça a été au top. Là où ils ont été au top, c'était durant cette Coupe du Monde. Mmh. Ils sont éliminés en 8e de finale par le Bénin. Il faut jamais oublier le pénalty raté, hein, par Ziyech à la dernière minute. Moi, j'ai toujours pensé que s'ils gagnent ce match contre le Bénin, ça se trouve, ils peuvent gagner la CAN. Donc non, ça s'est joué à pas grand chose. C'est une équipe qui a du potentiel, qui a du monde. Le problème, c'est qu'il manque encore quelque chose. Il a toujours manqué ces dernières années. Et puis là, coach Vahid est venu avec ses méthodes, ses idées. Il manque du monde. Il manquait pas mal de joueurs durant ce rassemblement.
Aussi.
Les Ziyech, Mazraoui, etc. Belanda était pas là. Benassia a arrêté. C'est pas rien, Benassia. Dans cette équipe nationale, c'était le capitaine. Donc ça fait que, avec tous les absences,
aussi, qui Boussoufa, était un joueur essentiel. Qui arrête sa carrière,
Il y a des chances, parce qu'il a 33-34 ans. Maintenant, on verra peut-être que s'il est le rappel d'une dernière minute, sait-on jamais. Ils ont toujours problème d'attaquant. Alors les buts qu'ils ont pris, j'ai vu les buts un petit peu, j'ai pas vu le match pour tout vous dire, mais j'ai vu les buts qu'ils ont pris.
C'était
vidéo guy, mais de l'autre côté aussi.
On leur a offert. Mais il y a Amrabat qui a mis un doublé.
Amrabat qui est. Alors il a relancé Tarabt, ça c'est intéressant parce que Tarabt, on retrouve le Tarabt qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps.
Ouais.
Mais c'est sûr que on va pas se mentir, c'est pas un bon début depuis qu'il a repris cette sélection. Maintenant, laissons un petit peu de temps au temps.
Pour terminer, un petit mot sur le Gabon, Philippe Doucet. Alors, c'est suite à quelque chose que vous avez tweeté aujourd'hui, mais vous n'êtes pas le seul. On s'intéresse aux pelouses des stades de ce pays. Non, mais pour la bonne et simple raison qu'en 2017, il y avait 4 stades, et on va dire beaux stades quand même, entre Libreville, Port-Gentil, Oyem et Franceville. Là, Freddy Koula, lui, qui est gabonais, notre confrère qui intervient dans Radio Foot, a lancé un SOS récemment pour sauver le stade de l'amitié de Libreville, parce que l'herbe qui y pousse, les arbres folles.
Ouvert en 2012.
Oui, voilà.
Il y a une éternité, donc.
Oui, contre à l'autre Brésil. Cannes.
Contre le Brésil.
Pour l'autre Cannes, effectivement.
En 2011, d'ailleurs. Ouais, 2011.
Et selon vous, donc, Philippe, alors là, par contre, eh bien, il y en aurait un seul praticable pour les matchs de novembre de qualification dont on parlait maintenant, et ça serait à Franceville. C'est-à-dire quand même bien loin de Libreville et bien loin des supporters.
Oui, d'après ce que j'ai compris lors du match à Saint-Leu-la-Forêt, j'ai pas mal discuté avec les Gabonais, il y a une pelouse acceptable dans le pays, qui reste acceptable. C'est celle de Franceville, qui était d'ailleurs la meilleure à la Cannes 2017. Et quand au stade de l'Amitié, qui est quand même le stade de base qui a fait le match d'ouverture finale de la Cannes 2012. 2012, il était déjà à la Cannes et donc 2017. Et ben, on a vu des images absolument ahurissantes. C'est une forêt vierge qu'ils ont.
La région est tropicale, donc pousse vite.
Non, mais il n'y a pas de travail.
Ah, si on fait rien,
il n'y a pas de travail. Il y a un laisser-aller incroyable sur des installations neuves. Alors, je pense que OIM va être rendu à la nature. Oui. Très très bientôt, la forêt vierge va reprendre le dessus.
Fitzcarraldo, c'est ça ?
Comme Fitzcarraldo, exactement, comme dans le film de Werner Herzog. Et puis quant à...
Quel gaspillage !
Oui, quant à Port-Gentil, là aussi, il y avait un stade. Bon, c'est navrant, mais malheureusement, c'est absolument pas unique. Le Ghana a eu toutes les peines du monde à organiser, je ne sais plus, c'était quoi, la CAN féminine cette année ou de l'an dernier ? Non, c'était cette année, au printemps, je crois. Ils ont eu toutes les peines du monde à rassembler deux stades, et encore, dont un nouveau, de Gold Coast, parce que sinon, sur les quatre de la CAN 2008, il reste pas grand chose d'utilisable.
C'est désespérant et c'est un peu inquiétant pour la CAN au Cameroun. Si elle a lieu, évidemment.
Oui, oui.
Mais parce qu'il va falloir entretenir tous ces édifices, parce que c'est du boulot, c'est de l'argent,
bien sûr.
C'est du travail.
Mais on se souvient que le Portugal, un pays européen, disait clairement qu'il avait trop de stades par rapport
à
l'Euro
tout à fait.
De 2004.
Les éléphants blancs, c'est partout. Hein.
C'est partout.
Ouais, exactement. Même s'ils sont en voie de disparition, pas les blancs en tout cas.
Le corner.
Et l'Espagne rejoint le groupe des qualifiés pour l'Euro 2020. Les champions du monde n'y sont pas encore, hein, n'est-ce pas ? Les champions d'Europe non plus, d'ailleurs. Mais La Roja a décroché hier son billet. Alors, on l'entend miraculeusement, but à la 92e minute de Rodrigo. Est-ce que cette Roja remodelée, avec son sélectionneur un peu inattendu, Robert Moreno, vous a séduit ? Karine, vous faites la grimace, je le dis. Parce qu'on n'est pas filmé,
pas totalement. Pas totalement. Ça fait un moment qu'effectivement, on n'est plus totalement séduit, je pense, par l'Espagne, parce que effectivement, rien n'a changé dans l'idée d'avoir la possession de balle. Ils ont eu encore une possession de balle énorme face aux Suédois, mais ça ronronne énormément. Il y a un manque de créativité et il y a des carences qu'on avait vues lors de la Coupe du Monde face aux Russes. Ils avaient la possession de balle, finalement, ils se font taper au tir au but. Et là, dans cette phase de qualif, il y a évidemment des victoires parce que c'est des groupes qui sont extrêmement faibles, mais il y a un manque de créativité, il y a un manque de buteurs. J'avais vu le match aussi face à la Norvège où
ils font match nul.
Ils font match nul et les Norvégiens égalisent en toute fin de match, mais c'était largement mérité. Et là, c'est le cas inverse, c'est l'Espagne qui arrive à arracher le match nul. Mais dans ce qu'ils font, c'est pas des épouvantails. Sur ces qualifs, je veux dire, une équipe évidemment comme les Pays-Bas, même comme une équipe comme la Belgique est beaucoup plus séduisante. Je trouve que l'Espagne, on reste dans ce côté, on a la balle, mais on n'est pas assez tueur. Et donc, pour l'instant, je suis pas très très emballé.
Philippe ?
Ouais, bon, le critère de la possession, il a pas grand sens dans des groupes où même l'équipe de Deschamps à la balle. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Non, mais il y a rien à faire. Vous jouez des très espagnol faibles. D'avoir la possession.
Oui, mais vous avez
et pendant la Coupe du Monde,
faibles.
Ils avaient la possession, mais ils s'en servaient pas.
Même la France
faire mal.
Oui, la Coupe du Monde, ça c'est autre chose. Mais là, même la France fait 70%, parce que les groupes sont devenus, il y a de tels écarts entre les nations que, vous jouez plein de petits, donc évidemment, vous avez la balle tout le temps. Mais au-delà de ça, il y a un changement radical dans l'équipe espagnole. Aujourd'hui, l'équipe espagnole, c'est quoi? C'est des joueurs de Villarreal, de Valence, un joueur de Barça de temps en temps, si Jordi Alba revient, ils peuvent être deux maximum, et un joueur du Real.
Ramos.
Quand il n'est pas suspendu, et puis Carbaral.
Carton jaune
et Carbaral, c'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas du tout c'est l'équipe qui a été championne d'Europe, championne du monde, qui était en gros le Barça, disons, c'est le Barça vrai. Sans Messi et avec quelques joueurs du Real qui renforçaient quand même très utilement, il y en avait au moins 3, donc c'était pas rien. Mais donc ça n'a rien à voir. On est dans autre chose avec toujours les mêmes caractéristiques de jeu. Karine là-dessus a raison. On essaye de on essaye de jouer, etc. Mais évidemment, avec les joueurs de Villarreal, avec les joueurs de Villarreal et Valence, vous n'allez pas exploser le monde entier. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Il y a pas de doute. Même si c'est d'une équipe qui continue, elle est quand même intéressante à voir jouer. Mais évidemment, elle a pas le niveau de
Hervé.
Elle a pas le niveau des grands. Elle a vaincu en éliminatoire. En plus, ils ont quand même fait des débuts d'éliminatoire très intéressant, mais c'est vrai qu'Oyarzabal, Rodrigo, etc., c'est pas non plus c'est pas le niveau des joueurs qu'ils avaient pu connaître à une certaine époque. La défense, moi, me fait un peu peur, parce que finalement, le plus jeune, c'est Bernat, qui est un bon joueur, un très bon joueur, qui a 26 ans. Sinon, la dernière fois, je regardais le match contre la Norvège, vous avez Albiol, qui a 33 ans, Ramos, qui est encore Ramos, 34, Jesús Navas, qui font jouer maintenant côté droit, comme défenseur, il va avoir 34 ou 35 ans, 33 ans, c'est la même génération que Ramos, ils ont joué ensemble à Séville. Donc après,
c'est plus jeune, par contre.
Oui, après, c'est plus jeune.
Le reste de l'équipe, c'est beaucoup rachet.
Sauf Piqué, puis après on remonte un peu plus jeune, quoi.
Il y a beaucoup de Moreno, vous avez remarqué. Oui, oui. Il y a un Gérard Moreno, un Rodrigo Moreno, Moreno.
Si les gens qui nous écoutent s'appellent Rodrigo, ils envoient leur candidature. Peut-être une chance de le jouer en équipe d'Espagne.
Mais à mon avis, en chanson, ils sont bons. Les Moreno, c'est pas mal.
Allez, avant qu'on passe au dernier sujet, un petit moment exceptionnel. Écoutez et voyez si vous allez identifier ce qui s'est passé hier soir sur une pelouse d'Europe. Alors Hervé, vous pensez, non, vous savez, croyez
je pensais,
savoir.
Ah oui, je pensais savoir et je ne savais pas. Faut dire la vérité aux gens. Je pensais que c'était le 700e but de Ronaldo.
Mais c'était avant-hier.
On en a parlé hier. Hervé, vous n'avez pas écouté Radio Foot hier.
Non, mais je pensais que vous vouliez nous piéger.
Oui, je voulais vous piéger.
On est piégé,
c'est David qui voulait vous piéger en fait. Karine.
Non, moi j'ai juste pu dire à Hervé qu'il se trompait. Voilà. C'est tout ce que j'ai pu dire. Voilà,
déjà bien.
C'est pas mal. Moi, je n'aurais pas contredit.
Eh bien, c'était vendredi soir. J'ai dit hier soir. Excusez-moi, c'était vendredi soir.
Ah oui. Alors,
ça change tout.
Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi?
L'Italie.
Sur un stade champêtre qui s'appelle Estadi National. Des tribunes avec 3300 places, c'était même pas plein.
À
Andorre.
Ouais, qu'est-ce qui s'est passé à Andorre?
Eh bien,
première victoire au match éliminatoire des Andorrans après 56 matchs. Après exactement
incroyable.
1-0.
Passionnant.
Après 56 matchs officiels et 56 défaites en éliminatoire de l'Euro.
Comme quoi tout est possible.
N'est-ce pas?
Qui a failli accrocher la Géorgie également? Perdant 3-2 d'extrême justesse, un des tout petits, alors c'est pas San Marin, parce que San Marin, vraiment, c'est pas possible.
Liechtenstein
et Vaduz a failli accrocher la Géorgie.
Ils n'ont pas gagné, alors que là, ceux-là, les Andorrains, ils ont gagné par 1-0. Et le buteur, eh bien, il s'appelle Marc Vales Gonzalez. Et c'est vrai que là, on avait l'impression qu'ils avaient gagné l'Euro.
Ah, mais ils sont en train de construire une statue, là, pour lui.
Ils ont marqué 3 points dans leur groupe H, qui est le même que celui de la France. Et comme ils ont battu la Moldavie, eh bien, ils sont juste devant, mais ils ont encaissé 16 buts quand même.
Donc logiquement, on devrait passer lors du prochain match.
Ça devrait aller. Ouais. Faut assurer un point, non?
Allez, on passe au dernier sujet de cette émission.
Ah, tu vois, j'ai du mal à parler, donc j'ai pas de souffle, quoi, les jambes coupées. Là, je commence déjà à avoir la tête qui tourne. Donc on
n'a pas vraiment mis les athlètes en avant en organisant des championnats ici. On les a surtout mis en difficulté.
J'ai l'impression de respirer de l'eau, tellement c'était humide. Il y avait plus de 90% d'humidité. C'était étouffant, il faisait vraiment très chaud.
C'est le premier stade conçu pour la Coupe du Monde au Qatar. Il a une particularité, il sera entièrement climatisé.
Le Qatar qui accueillera donc la prochaine Coupe du Monde en 2022. Et nous avons dans ce studio un homme qui revient de cette planète, de cette étuve. Il a suivi toute la compétition.
Mais il a maigri. Hein.
Il a même fait une expérience incroyable que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. C'est sonore et c'est même visuel.
Alors à l'extérieur du stade, c'est une vraie fournaise. Il doit faire 38, 40 degrés à l'ombre peut-être. Et encore, on trouve difficilement de l'ombre. Les gouttes de sueur, vous le voyez, roulent sur votre visage, même si vous ne faites pas le moindre effort. Et puis, à l'intérieur du stade, eh bien, la sensation est vraiment très différente. On a perdu à peu près une quinzaine de degrés. On est dans une atmosphère climatisée, assurée par ces canons à air frais que vous voyez derrière moi et qui sont disposés sur tout le pourtour du stade. Climatisation donc de l'intérieur du stade, et ce, même si le toit du Khalifa Stadium reste ouvert en permanence.
Christophe Jousset, vous avez survécu ?
Oui.
Vous êtes vivant ?
On est resté au frais tout le temps, presque. On est quand même obligé de faire des petits passages dehors, et c'est à l'extérieur. Et c'est
racontez-nous la chaleur au Qatar, dans le désert, hein, parce que finalement c'est un désert, on l'oublie, mais évidemment peuplé de très beaux buildings qui clignotent la nuit.
Oui, il y a le bout de la baie avec cette skyline et ces gratte-ciel qui doivent aussi consommer leur pesant de climatisation. C'est très bizarre parce que on s'efforce de rester quasiment toujours en atmosphère climatisée. Bon, le Qatar n'est pas le seul pays où il fait à la fois très chaud et très humide. On connaît ça dans d'autres pays en Afrique, par exemple. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, en plus, avec des températures plus chaudes que les normales saisonnières, c'était très compliqué de rester dehors. Et vous sortez de votre hôtel qui est climatisé pendant quelques minutes, vous êtes dehors en attendant votre taxi qui va être hyper climatisé. C'est les changements de température qui sont difficiles à gérer, et c'est ces moments-là où il faut faire très attention pour ne pas tomber malade.
Tu n'as pas perdu ta voix, c'est déjà bien.
Oui, c'est vrai.
Ou tu l'as retrouvée, je sais pas.
Non, mais c'est vrai, parce que c'était, il fallait absolument se couvrir à chaque fois qu'on rentrait quelque part. En fait, il fallait mettre une écharpe autour du cou parce que les différences, ils sont assez fans de la clim, et que certains sont même des forcenés de la clim. Donc, vous rentrez dans un taxi où il fait 18 ou 16 degrés, et quand la température ressentie à l'extérieur, c'est 45 degrés.
C'était beaucoup plus important qu'en Égypte lors de la CAN.
Oui,
parce qu'il y a eu des moments aussi où certains taxis étaient fans de la clim.
Effectivement, mais la différence aussi est dans l'humidité, quoi. Et l'humidité est super éprouvante. Et d'ailleurs, le médecin de l'équipe de France d'athlétisme nous expliquait ça. Quand on est, par exemple, à 60% d'humidité, on est à, en gros, 10 pulsations par minute de plus que la normale. 70% plus 20. Donc, c'était important. Alors, un peu sensible pour nous, même si on fait pas beaucoup d'efforts, mais très important pour les sportifs qui faisaient des courses à l'extérieur du stade.
Ma question, justement, c'est... Alors oui, il y a les courses à l'extérieur du stade, mais l'entraînement, comment s'entraînaient les athlètes? Ils s'entraînaient également dans des stades climatisés?
Il y avait un stade climatisé. Alors, il y avait un choix à faire, en fait, entre s'entraîner en extérieur complètement et s'entraîner en atmosphère climatisée. Mais les athlètes ne savaient pas trop sur quel pied danser, et beaucoup, en fait, prenaient ça comme un test, une expérimentation, en pensant déjà aux Jeux Olympiques de Tokyo, où ils vont être un peu dans les mêmes conditions climatiques, même si ça évolue depuis aujourd'hui.
C'est moins extrême quand même.
C'est moins extrême, mais n'empêche que le CIO vient d'annoncer aujourd'hui qu'il envisageait de faire passer les épreuves de marche et de marathon
ailleurs,
de Tokyo à Sapporo, 1h30 d'avion plus au nord, pour perdre 5 ou 6 degrés. Donc, vous voyez
Parce qu'avec les typhons, il n'est pas facile de faire 0-0 au marathon. C'est pas facile de faire un 0-0 au marathon. On n'arrive pas à trouver la formule. Donc, je crois que c'est pour ça, non?
Mais l'hiver, pour la Coupe du Monde de foot, ce sera quand même un peu moins fort.
Justement,
parce que moi, j'y suis allé.
Page météo. Racontez-nous, mais à Doha, théoriquement, alors effectivement, en septembre,
là,
vous étiez.
Là, on est quoi? Deuxième partie de novembre et.
Voilà, 21
décembre,
novembre, 18 décembre. Alors, Christophe, quand vous étiez, la moyenne, c'était 39, en dehors de votre stade climatisé. Mm-hmm. Et là, on tomberait à 30. Oui. Je dis bien, on tomberait, on perd donc seulement 9 degrés,
donc le soir,
et 25 en décembre.
Et le soir, des températures sans doute tout 20, à fait jouables. 20, 21, 22. Tout à fait jouables.
Parce que moi, je me souviens,
en plus de cette climatisation, parce que la climatisation, elle, entretiendra peut-être.
Ah, mais il n'y aura pas de climatisation. Je me souviens pas de climatisation.
Si, il y aura
ils peuvent toujours.
Ils avaient vendu leur candidature.
Elle sera à disposition.
Pour la faire fonctionner exprès.
Oui, mais ils l'avaient vendue parce qu'à l'époque, ils faisaient croire, mais tout le monde savait que c'était faux, de toute façon, qu'ils pourraient jouer en juin.
Ça aurait dû l'aider, l'été.
C'était ça l'idée.
Alors, en juin, c'est 42 la moyenne.
Mais au bout d'un an, ils ont, hop, on a vite fait ma machine arrière pour annoncer que ce sera en novembre-décembre. mais la température est relativement correcte. Hein. Ouais, ouais. C'est pas non plus que si vous jouez sous 25, même 26, 27.
On a joué la Coupe du Monde au Mexique, à 40 degrés.
Bien sûr. Même aux États-Unis à l'époque. Hein.
Vous irez courir autour des stades.
Alors courir jamais, parce que ça soit, voilà, que ça soit au Qatar ou en France.
C'est une religion. Jamais courir.
C'est pas votre religion.
C'est pas ma religion, mais effectivement, enfin, quand on a vu ce qui s'est passé pour les championnats du monde, on a quand même l'impression que les athlètes sont un peu des cobayes.
Mais en même temps, ils ont fait des performances très très bonnes, si j'ai bien compris.
Bah, il faut faire...
Ça dépend des disciplines, peut-être.
Non, mais il faut vraiment faire la différence entre ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, où là, les conditions étaient idéales, parce qu'il faisait 30 degrés maximum, 25-30 degrés, disons, il n'y avait pas de vent.
Aucun vent, oui. Mais...
Et on a vu, c'est peut-être même les championnats du monde au niveau des performances qui sont les meilleurs de l'histoire. On a vu des courses exceptionnelles, le Jamaïcain qui gagne la longueur à 8,69 m, un 400 mètres féminin gagné par la Bahreïnienne d'origine nigériane. Enfin, c'était vraiment extraordinaire. Les 2,37 m de Barchim, le Qatarien à la hauteur devant son public, c'était un grand moment.
Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que cette clim, au bout d'un moment, dans une époque un peu quand même écologique, ou espérons-le, en tout cas, est-ce que ça a pas un vrai impact sur la
Terre? Le bilan carbone n'était pas terrible.
Hein, je pense que c'était moyen, le CO2.
Je crois que c'est une question. Alors là, la question que vous posez, j'ai pas la réponse, mais c'est vraiment une question philosophique parce que le Qatar,
je suis assez philosophe moi, de toute façon.
Le Qatar vit, les Qatariens vivent dans ce climat-là. On voit qu'ils ont construit des gratte-ciels, ils y vivent, ils y travaillent. Est-ce qu'il faut les empêcher de vivre là, à cet endroit? Parce que le climat est là.
Bien sûr. Oui,
toute l'année.
Ok, on peut leur contester le droit d'organiser des événements sportifs par ces températures, mais
tu as raison.
Ça va jusqu'à ce point-là.
Non, c'est une vraie question. Moi, j'ai d'ailleurs mon neveu Thomas. Bonjour Thomas, s'il nous écoute, mais qui habite là-bas. Et effectivement, ils sont obligés de vivre dans la clim. Il n'y a pas d'autre choix.
Vous savez, à Manaus, en pleine Amazonie, où l'être humain a eu l'idée d'aller habiter, et ben c'est pareil. On vit dans l'air conditionné. Christophe, une chose encore, les tribunes étaient désespérément vides.
Ah oui, hein. C'était personne d'une tristesse au début.
Sur la fin et
sur les premiers jours, voilà, ça s'est un peu arrangé justement avec Barchim là, dont je parlais.
Mais alors vous avez eu droit à une scène qui a rappelé quelque chose, si je ne m'abuse, de 1982, n'est-ce pas?
Oui, parce que Barchim, donc, qui est l'athlète numéro un du Qatar, c'est un petit pays qui n'est pas beaucoup peuplé, notamment par les gens, les Qatariens. Mm-hmm. Et donc ils ont cet athlète qui était champion du monde en titre. Déjà le Qatarien Moutaz, un vrai Qatarien en plus, né là-bas et grandi là-bas, parce qu'il y a beaucoup de naturalisés dans l'athlétisme,
dans le foot
et dans le sport en général. Et donc ce soir-là, le stade a fait le plein. Alors peut-être avec quelques artifices, peut-être qu'on est allé chercher des gens pour les mettre dans les tribunes, on ne sait pas, on n'a pas tous les détails. Mais en tout cas, ce soir-là, on a eu une vraie belle ambiance.
8000 sur 40.
Et quand il.
8000.
8000
sur 40 000, je crois que c'était les chiffres, non?
Oui, enfin
d'autres jours.
Ce soir-là, il y avait beaucoup plus. Hein, ce vendredi soir-là, il y avait beaucoup plus. Et donc il fait péniblement 2,33 m, troisième essai. Il passe 2,35 m au premier essai, 2,37 m au premier essai. Il gagne. Et à ce moment-là, quand il a la médaille d'or assurée, il y a le président du Comité olympique du Qatar qui descend sur la piste alors qu'il y avait encore la finale du 400 mètres à courir et qui va donner l'accolade à Barchim. Et comme, ça casse un peu toutes les règles de l'athlétisme international.
Voilà, 82,
C'est du jamais vu. Enfin, moi, personnellement, c'était mes 10e championnat du monde d'athlète. J'avais jamais vu ça.
Donc, la vraie question, c'est est-ce que les supporters européens, parce que pour remplir les stades à la Coupe du Monde, évidemment, ce sont les supporters américains, sud-américains, européens,
tout
africains
est là,
qui viendront.
Est là.
Est-ce qu'ils se déplaceront au Qatar ou pas? C'est ça l'enjeu.
En tout cas, il y aura les 8 stades, vous n'avez pas eu le temps de faire le tour encore.
Non, mais ça construit, tout n'est pas terminé. Les travaux, toute la nuit, bip bip, sous ma chambre d'hôtel, le premier soir, j'ai changé de chambre.
Avec un terrible.
Il est allé dormir dans le stade directement.
Avec un terrible bilan de 2700 ouvriers qui ont trouvé la mort depuis le début de tous ces travaux des stades.
Ah oui, quand même.
Et c'est la fin de ce Radio Foot. Merci à tous. David Finzel, Laurent Salerno, à demain. Merci.